L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 18h. Nous sommes le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. La chaleur de cette fin d'après-midi est d'une moiteur tropicale. Le vent porte la poussière et le sable de la ville, mais aussi les chants des oiseaux qui, à la tombée du jour, piaillent de plus belle. Brusquement, un commando militaire fait irruption dans la salle du conseil du président Thomas Sankara. L'homme et 12 de ses proches sont alors sauvagement assassinés à l'arme automatique. Le chant des oiseaux a laissé place à un long et profond silence, une torpeur qui envahit tout le pays et qui traverse même les frontières. Il est 18h et c'est l'heure H de mon histoire. Le lendemain, à la radio, on annonce cyniquement que le président Sankara est décédé de mort naturelle. Durant la nuit, on recrute de force quelques bagnards pour l'enterrer à la hâte dans une fosse commune. Thomas Sankara, qui déclarait peu de temps auparavant « Je me retrouve comme un cycliste qui grimpe la pente raide d'une montagne. Il y a à gauche comme à droite des précipices. Je suis obligé de continuer à pédaler, sinon je tombe. » Le règne de Thomas Sankara n'aura duré que 4 années. Il est considéré comme l'un des plus illustres héros africains de l'après-colonisation. Assassiné en pleine ascension, cet homme, aux idées révolutionnaires, avait à peine 37 ans. Les circonstances de son meurtre demeurent mystérieuses. Mais un homme en est l'instigateur. C'est terrifiant d'y penser, mais celui qui a donné l'ordre de le tuer était son meilleur ami. Son frère de combat et de révolution, Blaise Compaoré. Compaoré régna ensuite durant près de 30 ans sur le Burkina Faso. La vision politique avant-gardiste de Thomas Sankara a profondément marqué le Burkina Faso et plus largement l'Afrique. Cette vision aura démontré à ce continent martyr comment s'affranchir des rapports post-coloniaux. La jeunesse du monde entier sera influencée par ses propositions. C'est vrai que les enjeux politiques autour du mythe Sankara étaient considérables. Ils gênaient beaucoup de monde. Pourquoi avoir tué Thomas Sankara? Lui qui prônait une révolution écologique, féministe, anti-impérialiste et de démocratie participative. Eh bien, peut-être que la réponse est contenue dans la question. Le 15 octobre 1987, à Ouagadougou, le capitaine Thomas Sankara est donc assassiné. Depuis, son fantôme hante encore l'Afrique. Il continue à inspirer, jusqu'en Europe, une jeunesse qui a faim de changement de paradigme pour nos sociétés sclérosées. Chaque année, on célèbre désormais celui que l'on nomme parfois le Che Guevara africain. Un titre sans doute réducteur. Sankara n'ayant jamais prôné de prendre les armes, mais plutôt de révolutionner le système de l'intérieur. Sa légende a pris le pas sur celle de Nelson Mandela, Patrice Lumumba ou Martin Luther King, les héros modernes des peuples africains et afrodescendants. En 4 années de pouvoir, Thomas Sankara a transformé son pays en modèle alternatif planétaire, le baptisant Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Il lui a offert un destin. Il a développé un modèle socio-économique dont le féminisme, l'écologie, la culture et l'autosuffisance alimentaire étaient les fondations. Et son refus répété de payer la dette imposée par les pays du Nord lui aura valu un paquet d'ennemis. Car en cette fin des années 80, le modèle du Burkina Faso risquait bien d'entraîner dans son sillage d'autres pays africains. Héros moderne, Sankara a transformé son pays par une vision inédite. Lors d'un discours en 1983, il affirme ceci. La révolution et la libération de la femme vont de pair. Et ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme que de parler de l'émancipation de la femme. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Les femmes portent sur elles l'autre moitié du ciel. La profondeur de la légende Sankara tient à son avant-gardisme. Il y a près de 40 ans, il exprimait déjà des revendications devenues actuellement incontournables. Écologie, féminisme comme principe de gouvernance. Il avait imaginé et commencé à mettre en œuvre, pour la première fois dans l'histoire moderne, ce renversement de paradigme. Pas si mal tout de même, pour un jeune capitaine des commandos parachutistes africains, non ? Bon, évidemment, Thomas Sankara savait pertinemment que ses idées dérangeaient et que sa tête était mise secrètement à prix. Et pas qu'au Burkina Faso. À peine nommé président, il dit lors de son discours du 26 mars 1983 « Nous sommes en train de vous parler et nous savons que dans cette foule, il y a des gens qui voudraient bien nous fusiller. » Mais laissez-moi vous décrire Thomas Sankara, son visage, sa dégaine. Sankara, c'est d'abord une vraie gueule d'ange, une douceur dans la voix qui contraste avec sa verve flamboyante et ses formules poétiques déguisées en punchline. Il ne quitte jamais son béret rouge, son treillis militaire et son authentique Colt à la ceinture. Ses discours, étudiés dans les plus grandes universités, ont enflammé l'Organisation des Nations Unies. Écoutés de Pékin à New York, de Moscou à Paris, de Tripoli à New Delhi, il ensorcelle son public par sa franchise, son audace, son franc-parler. Il assène leurs quatre vérités aussi bien à Muammar Kadhafi qu'à Mikhail Gorbatchev ou à François Mitterrand. Et tout cela en public. Il n'a pas froid aux yeux, c'est clair. Mais attention, certaines choses sont parfois moins reluisantes. On accuse Thomas Sankara de diriger le pays d'une main de fer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Thomas Sankara, un héros africain assassiné par son meilleur ami. De jeune capitaine des commandos africains, il devient à 33 ans le président du Burkina Faso en 1983. Sa légende a pris le pas sur celle de Nelson Mandela, Patrice Lumumba ou Martin Luther King. En 4 années de pouvoir, Thomas Sankara a transformé son pays en modèle alternatif planétaire. Mais comment est-il devenu ce révolutionnaire aux idées si novatrices ? Tout d'abord, je vous explique le contexte. Lorsque Thomas Isidore Noël Sankara naît en 1949, le Burkina Faso est une colonie française. Mais elle ne se nomme pas encore Burkina Faso. Son nom, donné par la France, est alors la Haute-Volta. En 1960, après plusieurs années de heurts, la Haute-Volta accède enfin à l'indépendance. Thomas Sankara a alors 11 ans. Dans le schéma colonial français, la création de la Haute-Volta répondait à un seul et unique objectif, celui de pouvoir recruter dans une population volontairement maintenue dans le sous-développement et l'ignorance, une main-d'œuvre à très bas revenu pour les plantations de la Côte d'Ivoire, le pays voisin. Une façon de perpétuer de manière à peine voilée une tradition d'esclavagisme. Joseph Sankara, le père de Thomas, est issu d'une ethnie minoritaire et largement discriminée. Après bien des déboires, Joseph finit par entrer dans l'armée. Il est envoyé au front sur la ligne Maginot en 1939. Il est fait prisonnier des nazis en juin 1940. Il passe alors 5 ans dans un camp d'internement. 5 années atroces, faites de privations et de sévices en tout genre. Fin 1945, Joseph rentre au pays avec le statut de gendarme auxiliaire et fonde une famille. Thomas Sankara sera le 3e d'une fratrie de 11 enfants. Pensez bien que grandir en écoutant les récits de son père à propos de la guerre et de son internement dans les camps nazis a dû forger durablement l'esprit du jeune Thomas. Ce dernier poursuit une scolarité brillante dans les institutions catholiques mises en place par les colons. Il souhaite ensuite devenir chirurgien. Mais la bourse qui lui aurait permis de suivre des études de médecine est usurpée par un autre élève dont la famille maîtrise les circuits de la corruption. Après les atrocités subies par son père, c'est donc une deuxième injustice qui marquera à vie le jeune Thomas. Il réalise combien son pays, nouvellement indépendant, est tombé dans le piège de la corruption et d'une classe dirigeante absolument déconnectée des réalités vécues par la population. Sa bourse d'études volée, il ne sera donc pas médecin. Il se résigne alors à suivre une formation militaire qu'il ira parfaire à Madagascar. Ce séjour, fin des années 60, à Madagascar, est un moment crucial pour Thomas Sankara. Sur l'immense île à la croisée des cultures africaines et asiatiques, le jeune homme rencontre plusieurs enseignants français qui l'ouvrent aux lectures marxistes et tiers-mondistes. Le jeune Thomas comprend que sa destinée se dirige vers la politique. Mais une politique nouvelle. Il a 20 ans. Son véritable combat commence. Considéré comme l'officier le plus brillant de sa génération, Sankara obtient le commandement le plus prestigieux de l'armée, l'unité de paracommando stationnée à 150 km au sud de Ouagadougou, dans la ville de Pau. Il peut désigner lui-même son adjoint et choisit alors Blaise Compaoré, ce camarade dont la rencontre a été fondatrice et avec lequel il partage tout. Sankara ne se doute évidemment pas que c'est Compaoré qui, quelques années plus tard, commanditera son assassinat. Entre 1977 et 1983, l'Afrique connaît de vives tensions. Plusieurs coups d'État viennent émailler la Haute-Volta et ils vont mener Thomas Sankara au pouvoir. Plus populaire que jamais auprès de la jeunesse et du monde ouvrier de son pays, le jeune leader pointe les injustices et libère la parole de ceux qui n'avaient jamais eu voix au chapitre. À partir de là, il y aura un avant et un après Sankara. En 1979, Thomas Sankara vient de fêter ses 30 ans. Il est impressionné par ce qui se passe au Ghana. Dans ce pays anglophone frontalier, un jeune officier tiers-mondiste, Jerry Rawlings, vient de réaliser un coup d'État qui a chassé la clique au pouvoir. Il met en place une politique de lutte contre la corruption et de restructuration de la société. Thomas Sankara regroupe alors autour de lui quelques officiers au sein d'une structure clandestine, le ROC. ROC pour Rassemblement des officiers communistes. Blaise Compaoré, le frère de cœur de Thomas Sankara, en fait partie. Ils se sentent prêts. Alors c'est décidé, dans quelques mois, ils déclencheront la révolution. Et Thomas aspire à devenir le leader charismatique, anticolonialiste et pacifiste de cette révolution. Les camarades scellent leur amitié et leur fidélité envers leurs idéaux révolutionnaires. Ils se regardent longuement droit dans les yeux. Le soleil se couche sur la ville de Pau, déployant d'incroyables teintes de gris, d'orange et de rose mêlée. Le temps est orageux. Les camarades se sentent gonflés à bloc, investis de la mission qu'ils se sont donnée de libérer le peuple. Ils trinquent à l'avenir. Et seuls les verres qui se cognent, les rires et les échanges à voix basse viennent troubler le silence de la nuit et les crépitements du feu. Le vent s'engouffre dans les feuillages des acacias. Le 25 novembre 1980, un coup d'État militaire fomenté par de hauts gradés surprend tout le monde et renverse le président de la République voltaïque. Ce coup d'État militaire se déroule sans effusion de sang. Le colonel Saïe Zerbo prend le pouvoir. Thomas Sankara est alors nommé secrétaire d'État à l'information. Il s'emploie à créer les premiers médias indépendants auxquels il confie la mission de pouvoir investiguer librement. La création de médias indépendants fait l'effet d'une véritable bombe. C'est absolument novateur. Un an plus tard, en avril 1982, Thomas Sankara quitte soudainement son poste de secrétaire d'État à l'information. Ses réformes étaient jugées trop rapides, trop radicales. Cette démission n'est certainement pas innocente. Sankara sait que les réactions vont fuser. Les syndicats se mobilisent, les grèves s'installent, la répression s'emballe et les leaders militaires sont arrêtés. Le lendemain de sa démission s'ouvre le très réputé Festival international du cinéma africain. Pour la première fois, Thomas Sankara est invité à parler en direct à la radio et à la télévision d'État. Son intervention est considérée comme historique. La foule l'ovationne. Il prononce ses mots destinés à la jeunesse et qui vont avoir une résonance sans précédent. Il dit ceci. Il n'y a pas de cinéma sans liberté d'expression, et il n'y a pas de liberté d'expression sans liberté tout court. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Thomas Sankara devient aussitôt immensément populaire. Les colonels au pouvoir le font arrêter, puis placé en résidence surveillée. Enfermé, il ne fera que mieux préparer la suite. D'autant que Blaise Compaoré, son frère de cœur, échappe au coup de filet et devient alors le véritable coordinateur de la Révolution. Entre nous, peut-être qu'ici une jalousie inconsciente chez Blaise Compaoré commence à naître. Lui qui coordonne la Révolution restera le numéro 2, toujours dans l'ombre de Thomas Sankara, dont l'impressionnant charisme n'a pas d'égal. Le 7 octobre 1982, un nouveau putsch plonge le pays dans la confusion la plus totale. Face au chaos, Sankara impose aux putschistes la création du Conseil de salut du peuple, qui devrait représenter les différentes tendances en présence. Mais une fois le Conseil en place, les discussions piétinent. Finalement, en dehors d'un programme de lutte contre la corruption, aucun consensus n'émane de ce programme. La confusion va dominer durant un mois, jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Il est convenu que le militaire Jean-Baptiste Ouédraogo est nommé président de la République et qu'il désignera Thomas Sankara comme Premier ministre. Sankara est alors propulsé au devant de la scène internationale. Il se dit en coulisses que le président de la République n'est qu'un mannequin dans une vitrine et que celui qui influe sur la marche à suivre et les réformes profondes de la société est bien entendu Thomas Sankara. Sankara profite de son statut de Premier ministre pour se faire connaître à l'étranger. Il rencontre le colonel Kadhafi, leader africain incontestable, qui avait ouvert la voie de la nationalisation des ressources encore détenues ou exploitées par les anciens pays colonisateurs. Il se rend également en Chine et en Corée du Nord. Anecdote sans doute moins élégante, on dit que le Colt que Thomas Sankara portait en permanence à la ceinture lui aurait été offert par le dictateur nord-coréen. Cette polémique fait long feu. Alors que l'on pense que Sankara va se ranger du côté du bloc soviétique, prenant parti pour un camp plutôt qu'un autre durant la guerre froide, il surprend tout le monde. Il s'impose au sommet des pays non alignés organisé à New Delhi en mars 1983. En pleine guerre froide, ce mouvement se présentait comme une organisation internationale visant à regrouper les États qui se considéraient comme alignés ni sur le bloc de l'Est, ni sur le bloc de l'Ouest. Devant 29 chefs d'État, Thomas Sankara, du haut de ses 33 ans, fait un discours à la fois pacifiste et hors des sentiers battus. Il y parle notamment de s'affranchir des grandes puissances et d'obtenir une autosuffisance alimentaire pour l'Afrique. Il n'est plus possible, selon lui, de troquer des métaux précieux et d'autres ressources contre des importations de nourriture, alors même que l'Afrique possède des terres agricoles et des agriculteurs compétents. Sankara magnétise son auditoire. Avec des mots simples, il formule ce que beaucoup n'osent même pas espérer pour l'avenir de leur pays. Fidel Castro pour Cuba et Daniel Ortega pour le Nicaragua s'affichent ostensiblement aux côtés de Thomas Sankara. Indira Gandhi le met à l'honneur. La moindre de ses interventions publiques est relayée à la fois dans les villes et les campagnes les plus reculées, parmi les jeunes, les anciens, sur les terrains de sport, les places de village, les chantiers, les universités, les marchés, partout. Thomas Sankara veut éviter que ses idéaux restent théoriques. Il exige des réformes concrètes. Le président Jean-Baptiste Ouédraogo entre en conflit avec lui et le limoge de son poste de Premier ministre en mai 1983. Mais à peine trois mois plus tard, Thomas Sankara effectue un nouveau putsch. En réalité, ce nouveau coup d'État est mené par son ami, le capitaine Blaise Compaoré. Une fois de plus, Compaoré reste dans l'ombre. Six mois plus tard, Thomas Sankara devient président et lance la grande révolution burkinabé. Vous avez bien entendu. J'ai dit burkinabé. Parce que la première chose que le jeune président Thomas Sankara va faire, c'est rebaptiser son pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, qui signifie littéralement, nous l'avons déjà évoqué, le pays des hommes intègres. Ensuite, il crée le Conseil national de la Révolution. Son gouvernement défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération de la femme, la mobilisation de la jeunesse et des paysans dans les luttes politiques, l'écologie et l'accès aux terres agricoles deviennent des enjeux majeurs. Ce qu'il y a d'étonnant dans les réformes prônées par Thomas Sankara est leur éclatante cohérence. Le président semble déployer une vision globale des choses, et les réformes s'enchaînent à un rythme considérable, si bien que ses propres ministres ont parfois du mal à le suivre dans ses démarches. Sankara avance vite, il avance fort. Thomas Sankara bénéficie d'une indéniable popularité, et malgré qu'il soit devenu président, son allure ne change pas. Il n'apparaît qu'entrée militaire avec à la ceinture le fameux pistolet Colt à crosse de nacre. Mais le plus surprenant est sa manière de vivre au quotidien. Il n'accepte pas de salaire supérieur au salaire moyen. Il vit simplement, avec sa femme et ses deux fils, dans un palais présidentiel délabré. On dit qu'il a pour seul bien sa guitare, avec laquelle il n'hésite pas à jouer à de nombreuses occasions, car Thomas est aussi passionné de musique. Il avait même son propre groupe, nommé le Toutaku Jazz. L'ère Sankara a été aussi ponctuée de grands rendez-vous musicaux et artistiques. La venue de la star jamaïcaine Jimmy Cliff n'en est pas la moindre. Outre sa guitare, l'autre symbole fort qui achèvera de rendre Thomas Sankara unique est certainement sa Renault 5 d'occasion, un véhicule qu'il impose comme voiture de fonction à tous les membres du gouvernement. Les cortèges de Mercedes de fonction sont tous revendus et laissent place aux petites Renault. Et bien entendu, il est conseillé d'éviter les services d'un chauffeur. Il n'est donc pas rare de croiser le président Sankara au volant de sa R5 dans les rues de Ouagadougou. Au niveau politique, Thomas Sankara instaure une liste de priorités. Il retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer. Ce qui ne fera pas que des heureux. Il crée les comités de défense de la Révolution. Ces derniers sont chargés localement d'exercer le pouvoir, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation des produits locaux. Cette politique vise à réduire la malnutrition, la soif, la diffusion des maladies et l'analphabétisme. Les dépenses de fonctionnement diminuent afin de renforcer l'investissement. Soucieux de l'écologie, Sankara dénonce des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. Il lance alors le premier programme africain de lutte contre la déforestation. Il institue la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour juguler la désertification. Il crée également un ministère de l'Environnement, un acte pionnier à cette époque. Il multiplie les campagnes de lutte contre le déboisement, les feux de brousse et la chasse illégale d'animaux. Le nouveau régime vise à développer une économie ne dépendant plus de l'aide extérieure que Thomas Sankara décrit ainsi. Ces aides alimentaires qui installent dans nos esprits des réflexes de mendiants, d'assistés, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire plus parce qu'il est évident que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Les importations de fruits et légumes sont interdites afin d'inciter les commerçants à se fournir au Burkina Faso. Cela est favorisé par la mise en place d'une chaîne nationale de magasins. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies déclare alors, au sujet de Thomas Sankara, « Il a vaincu la faim. Il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. C'est exemplaire. »
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'assassinat de Thomas Sankara. Nous sommes au Burkina Faso en 1984. C'est avec un magnétisme inné et des mots simples que ce jeune président de 33 ans formule ce que beaucoup n'osent même pas espérer pour leur avenir. Sankara semble déployer une vision globale des choses. Et les réformes s'enchaînent à un rythme considérable. Sankara avance vite et fort. Très vite, le discours féministe devient également central. Thomas Sankara dénonce le poids des traditions qui pèsent sur les femmes. Il met fin au mariage forcé et à la dot qu'il considère comme une marchandisation des femmes. Et surtout, il interdit l'excision des jeunes filles. Il ira jusqu'à imposer des jours de marché interdits aux femmes pour obliger les hommes à faire les courses et les tâches ménagères eux-mêmes. Thomas Sankara avance aussi l'idée d'un salaire vital, prélevé à la source d'une partie du salaire de l'époux pour le reverser directement à l'épouse. Des orchestres de femmes sillonnent le pays pour mobiliser le moindre village et lancent des slogans repris à l'unisson. « À bas les maris violents !»« À bas les mâles dominants !» Je pourrais continuer à vous énumérer les réformes initiées par Thomas Sankara et instaurées par son gouvernement. Vous l'aurez compris, elles sont nombreuses, souvent inédites. Mais cette politique très engagée commence sérieusement à déranger. On dit aussi de Sankara que c'est un président autoritaire. Il semble impossible de critiquer ses idées ou de remettre en question ses projets. Des projets louables pour le peuple, mais qui ne plaisent pas toujours dans les plus hautes sphères de la société et auprès des diasporas étrangères. Sans même parler des gouvernements étrangers. En ce milieu des années 80, en plein essor mondial d'un capitalisme effréné, on voit d'un très mauvais œil cet état du Burkina Faso, considéré par beaucoup comme marxiste. Quand on parle en Europe de libéralisation de marché, de mondialisation et de mouvements internationaux de capitaux, Thomas Sankara parle de favoriser les produits locaux, l'autosuffisance alimentaire et une agriculture responsable d'un point de vue écologique. Des propositions qui heurtent, des agissements qui n'arrangent pas tout le monde. Si cela se cantonne au Burkina Faso, c'est une chose. Mais si le mouvement lancé par Sankara faisait tache d'huile pour atteindre des pays aux ressources minières ou pétrolières importantes, cela deviendrait beaucoup plus dangereux pour l'ordre mondial en vigueur. C'est pourquoi ce qui se déroule au Burkina Faso est surveillé de très près. C'est une sorte de laboratoire dont beaucoup souhaitent que les expériences n'en sortent pas. Sur la scène internationale, ses relations avec les autres pays sont parfois complexes. Ses prises de position, ses liens avec les sulfureux dirigeants de la Libye et du Ghana lui valent quelques animosités. Au président français François Mitterrand, qui avait accueilli officiellement le Sud-Africain Peter Botha en plein contexte d'apartheid, Thomas Sankara donnera une leçon particulièrement osée sur les droits de l'homme. Mitterrand, que l'on imagine impassible et difficilement désarçonnable, en restera bouche bée. Mais nous y reviendrons. Suite à cela, l'aide économique française est alors subitement réduite de 80%. Coup dur pour le Burkina. Plutôt que de faire profil bas, Thomas Sankara franchit un pas supplémentaire. En effet, il exhorte l'Afrique à ne pas payer sa dette au FMI et aux pays occidentaux. Ses propos sur l'annulation de la dette feront de lui un héros, mais aussi quelqu'un à museler urgemment. 3 mois avant son assassinat, pendant un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie, il prononce un discours passé à la postérité. Il conteste la légitimité de la dette de son pays et appelle à une action collective des pays africains. « La dette ne peut pas être remboursée, dira-t-il, parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, nous allons mourir. Soyons-en sûrs également. » Et il persiste et signe en affirmant « Je dis que les Africains ne doivent pas payer la dette. » Celui qui n'est pas d'accord peut sortir tout de suite, prendre son avion et aller à la Banque mondiale pour payer. Tonnerre d'applaudissements et longue ovation. En coulisses, certains grincent des dents. Thomas Sankara inquiète. Thomas Sankara dérange. On commence doucement à chercher des solutions au problème Sankara. Je vous ai parlé de Blaise Compaoré, l'ami et fidèle bras droit de Thomas Sankara. L'arrivée de Chantal Terrasson de Fougère, une jeune femme ambitieuse dans la vie de Blaise, va dévier le cours de la révolution burkinabé en compromettant l'amitié qui liait Blaise et Thomas. Et pourtant, cette amitié était le principal socle de stabilité du pouvoir politique. Le goût du luxe et les appétits de pouvoir du couple Compaoré ne sont plus du tout en phase avec les réformes politiques voulues par Thomas Sankara. Son compagnon d'armes semble abandonner ses idéaux. A-t-il oublié les crépitements de feu dans le désert et les promesses qu'il unissait à Thomas ? Blaise rêve de palais, d'argent et de pouvoir centralisé. En cette fin d'année 1985, l'atmosphère devient électrique à Ouagadougou. Ces tensions manifestes entre les deux hommes inquiètent la population, mais font aussi l'affaire des pays occidentaux qui y voient un possible frein aux aspirations de Thomas Sankara. En premier lieu, sa volonté tenace d'annihiler la dette africaine et sa guerre ouverte avec le FMI. Certains observateurs iront jusqu'à dire que l'arrivée de Chantal dans la vie de Blaise Compaoré est en réalité un coup monté depuis l'étranger, peut-être depuis la France ou la Côte d'Ivoire. Chantal Terrasson de Fougère est franco-ivoirienne. La France et la Côte d'Ivoire entretiennent sur bien des points de très bons rapports. Ce sont deux pays fortement opposés à l'ascension de Thomas Sankara. Il n'y a sans doute pas de preuves suffisantes à de telles allégations, mais certains affirment que cette arrivée n'est peut-être pas tout à fait hasardeuse. Ce que l'on sait, c'est que le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, dont Chantal Terrasson de Fougère était proche, envoya à Ouagadougou deux malles débordantes de francs CFA et de dollars. L'une destinée à Thomas Sankara, l'autre à Blaise Compaoré. Sankara fit renvoyer la malle vers Abidjan. Compaoré la garda. À partir de là, Thomas Sankara se sent acculé de toutes parts. Un épisode viendra quelque peu ternir la réputation de Thomas Sankara. C'est le fameux épisode de sa joute oratoire avec François Mitterrand, alors président de la République française. Je vous raconte ça. Fin 1986, les tensions entre le Burkina Faso et ses voisins d'Afrique francophone deviennent évidentes. Le 13e sommet des chefs d'État d'Afrique et de France se tient au Togo. Le président du Togo déteste Sankara et il ne s'en cache pas. Dès la fin de la conférence, Jacques Chirac, alors Premier ministre, s'envole en Côte d'Ivoire. Tandis que François Mitterrand se rend à Ouagadougou pour sa première visite présidentielle au Burkina Faso. On assiste ensuite à un moment d'histoire pour le moins ambigu. Thomas Sankara a un échange houleux avec François Mitterrand. C'est un échange public. Sankara dénonce violemment la politique étrangère de la France en Afrique et au Moyen-Orient. Mais ce qui est déstabilisant pour Mitterrand, c'est que, tout en attaquant sans ménagement la politique française, son interlocuteur fait son éloge. Il cite notamment de larges extraits de ses livres. Pendant plus d'une demi-heure d'entretien, Sankara alterne propos moralisateurs et indignés envers la France et marque d'authentique respect. C'est très habile de sa part, car c'est une façon à peine voilée de dire au président Mitterrand qu'il a trahi ses idéaux, qu'il a perverti sa politique d'origine. Mitterrand est très en colère. Les deux présidents poursuivent leur entretien devant un auditoire sidéré qui ne comprend pas ce qui se joue ici. Pourtant, 30 ans plus tard, un secret est révélé. François Mitterrand et Thomas Sankara s'étaient mis d'accord pour avoir cette joute oratoire, ce conflit ouvert. Et l'un comme l'autre s'était entendu pour n'en faire aucun commentaire. Cela profite surtout à Mitterrand qui se pose en victime d'une politique qui n'est pas la sienne, alors qu'il doit composer avec son nouveau gouvernement orienté à droite et incarné par son Premier ministre, Jacques Chirac. Pendant ce temps-là, à Abidjan, c'est ce même Jacques Chirac qui écoute attentivement le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'il lui glisse le nom de Blaise Compaoré comme solution au problème Sankara. Blaise Compaoré, le fidèle bras droit, l'ami de toujours, se sent pousser des ailes. L'atmosphère à Ouagadougou n'est plus seulement électrique. elle devient explosive. Une vaste campagne de dénigrement contre Thomas Sankara débute alors dans le pays. Sankara sait ce que prépare Blaise Compaoré contre lui. Un certain Guy Delbrel, à l'époque mandaté par François Mitterrand, fait savoir discrètement à Thomas Sankara qu'un turbin est en préparation à son encontre et qu'il ferait mieux de fuir. Qu'est-ce qu'un turbin ? C'est un mot précis utilisé par les services secrets français et qui signifie une manipulation suffisamment bien orchestrée pour que personne ne puisse savoir qui en est véritablement à l'origine. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. C'est maintenant la vie du président qui est en jeu. Jeudi 15 octobre 1987, 16h. Un groupe de soldats paracommando vient de débarquer en salle de conseil de Thomas Sankara. Leur mission est simple. Liquider tout le monde. Dans la cour, tous les gardes sont abattus. Le capitaine Thomas Sankara, en réunion avec des conseillers, hurle. « Restez là, c'est moi qu'ils veulent. » Le président se précipite dehors, les mains en l'air. Il est immédiatement fauché à l'arme automatique. Aucun de ses gardes ni conseillers ne sera épargné. En tout, une douzaine de personnes sont abattues. Ils seront tous enterrés à la hâte, la même nuit, dans une fosse commune. Des bagnards, comme on l'a dit, ont été recrutés pour assurer cette sale besogne. Dans toute la zone, militaires et civils courent dans tous les sens. Sur Radio Burkina, les programmes sont suspendus. On ne diffuse plus que de la musique militaire. Pour les Burkinabés, déjà habitués au coup d'État, c'est un signe qui ne trompe pas. Le pouvoir a changé de main. Et la confirmation ne tarde pas. Un communiqué lu à la radio par un officier annonce la démission du président et proclame la création d'un front populaire dirigé par le capitaine Blaise Compaoré. La confusion est totale. Les citoyens ne comprennent pas ce règlement de compte aussi sanglant entre deux leaders considérés comme amis et frères. Le goût du luxe, récemment acquis par Blaise Compaoré, suffit-il à expliquer une telle trahison ? Est-ce sa jalousie vis-à-vis d'un pouvoir jamais totalement partagé ? Plusieurs jours après, le certificat de décès de Thomas Sankara, publié dans la presse, indique qu'il est décédé de mort naturelle. Voici ce qu'avait confié Thomas Sankara à des journalistes peu de temps auparavant. « Le jour où vous entendrez que Blaise Compaoré prépare un coup d'État contre moi, ce n'est pas la peine de me prévenir, car ce serait trop tard. » Par naïveté ou par impuissance, le charismatique chef de la révolution burkinabé n'échappera donc pas aux balles de son entourage. Sa mort fait l'effet d'une bombe sur tout le continent africain. La consternation est générale, notamment au sein de la jeunesse africaine. Le rêve placé dans ce jeune officier de 37 ans vient de se briser. Arrivé au pouvoir 4 ans plus tôt, le capitaine Thomas Sankara avait engagé une révolution pour changer les mentalités dans son pays, l'un des États les plus pauvres de la planète. On retiendra qu'il avait continuellement encouragé ses compatriotes à compter sur leurs propres forces. Il faudra ensuite attendre 20 ans pour que l'on commence progressivement à s'interroger sur les véritables circonstances de son assassinat. Blaise Compaoré est soupçonné d'en être le principal responsable. Mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt ? En 2015, un mandat d'arrêt international est lancé par la justice militaire contre Blaise Compaoré, alors en exil en Côte d'Ivoire. En avril 2022, lui et 13 autres accusés sont jugés pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres. Mais la Côte d'Ivoire refuse l'extradition de Blaise Compaoré, pourtant condamné à la prison à perpétuité. Le procès de Blaise Compaoré porte uniquement sur le volet national de l'assassinat, les complicités étrangères n'étant pas évoquées. L'implication de la France et de la Côte d'Ivoire est régulièrement soupçonnée dans cette affaire. En avril 2021, une grande enquête menée par le journal L'Humanité apporte un éclairage nouveau et met la France dans une position très délicate. Mais l'histoire n'est peut-être pas finie. Et il n'est pas impossible que la vérité éclate un jour, car à l'issue du procès à l'encontre de Blaise Compaoré, les avocats de la partie civile ont déposé une requête auprès du tribunal pour relancer l'instruction du volet international du dossier. Affaire à suivre donc. Une chose est certaine, par son intégrité légendaire, le leader charismatique Thomas Sankara dérangeait. Son nom est encore acclamé par la jeunesse africaine et mondiale. Son projet écoféministe, d'une étonnante modernité, demeure une référence en la matière. Et, plus que l'homme et sa fin tragique, ce sont certaines de ses aspirations, de ses réformes et de ses idées fulgurantes qui resteront gravées dans l'histoire. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Gaëtan Saint-Rémy.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.